Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Non, non, le pire n'est pas toujours certain. La preuve par Romain Grosjean, le pilote de Formule 1 qui vient de sortir de l'hôpital après son effroyable accident de dimanche dernier. Il a accordé une interview exceptionnelle à Frédéric Veil, vous l'entendrez à 18h35. Romain Grosjean qui raconte notamment ce qu'il s'est passé pendant ces interminables 28 secondes durant lesquelles il était prisonnier de sa voiture en feu.
Me dire qu'il faut que je sorte, qu'il y a le feu, j'ai pas le temps d'attendre, essayer à droite, réessayer à gauche, pas y arriver, me rasseoir, penser à Niki Lauda, en me disant c'est pas possible, je peux pas terminer comme ça, ça peut pas se passer comme ça, réessayer, ne pas y arriver, me rasseoir, me dire que je vais mourir, que ça y est, c'est terminé, penser à mes enfants et trouver la solution.
Interview à écouter en intégralité tout à l'heure à partir de 18h35. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les grands titres de l'actualité de ce mercredi 2 décembre.
Et à la une ce soir, le Royaume-Uni qui s'apprête à vacciner sa population contre le Covid dès la semaine prochaine. On ira voir ce qu'en disent les Britanniques. En France, Bruno Le Maire met la pression sur les assureurs. Il leur donne jusqu'à lundi pour geler les primes d'assurance des restaurateurs.
Et événement à 18h15 puisque le PDG d'AXA France, Jacques de Peretti, répondra à Bruno Le Maire. Il sera l'invité d'RTL Soir.
Et puis le PSG joue ce soir son avenir en Ligue des Champions. Les Parisiens affrontent Manchester United.
La météo pour demain. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Thomas.
Au gris, vous ajouterez la pluie, s'il
Exactement.
Vous plaît.
Exactement. En fait, on a une nouvelle perturbation qui va arriver par l'ouest et donner de bonnes pluies avec beaucoup de vent sur un quart nord-ouest le matin. Les pluies vont gagner plus de régions au fil des heures et surtout s'intensifier, tout comme le vent. Du sud-ouest au nord-est, avant l'arrivée de ces pluies, le temps sera gris avec juste quelques gouttes et seul l'extrême sud, les frontières de l'est et la Corse conserveront un temps sec et même ensoleillé en région PACA. Les températures, elles seront encore fraîches, entre 3 à Nancy et 14 à Biarritz pour les maximales, 6 à Paris, 11 à Bordeaux.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Et on commence d'abord ce soir avec une histoire qui fait du bien. Un cadeau de Noël avant l'heure, l'histoire de cette famille qui vient de retrouver son chien disparu il y a 8 ans, 8 longues années, Nicolas Bobby.
Tu viens mon petit peu, on va se balader? Allez, viens. Bien.
Le toutou, c'est Driver, 12 ans, un Springer marron et blanc. Eric Salès, qui vit au Portugal, a cru à une erreur lorsque la SPA de Gennevilliers l'a appelé.
Quand je me retourne et là, je vois mes deux chiens avec moi sur la pelouse. Je lui dis, madame, il y a une erreur, mes deux chiens sont là. Et il me dit, non, monsieur, on a retrouvé votre chien, il s'appelle Driver. Alors là, j'ai pris une douche froide, quoi. Parce que je me souviens de Driver, on me l'a volé il y a 8 ans à Carnac.
Le maître a pris le premier avion pour Paris. Aujourd'hui, le chien de chasse reprend des forces à l'Armor Plage avec sa fille Aurélie.
Et Driver était à l'époque mon compagnon que j'amenais tout le temps sur les terrains de concours hippique. Même s'il ne nous reconnaît pas, il y a des traits de caractère que nous on reconnaît, comme son côté têtu.
Le tatouage, la comparaison avec des photos anciennes ne laisse pas place au doute.
Ah ouais, c'est vraiment lui. Ça a été des grands moments d'émotion parce que je pensais pas le retrouver, je pensais pas verser des larmes à ce moment-là quand même.
Ah bah oui, tu veux aller voir les mouettes. T'aimes bien les mouettes.
Très sage, Driver n'aboie pas. Après des années d'errance, il profite des caresses.
Un vrai conte de Noël, je vous avais prévenu. Récit signé Nicolas Bobby.
Merci Père Noël. On en vient à la crise sanitaire et le Royaume-Uni, Amandine, qui est donc le premier pays au monde à donner son feu vert à un vaccin, le vaccin Pfizer en l'occurrence.
Il sera disponible outre-Manche dès la semaine prochaine. Voyons ce soir ce qu'en disent les premiers intéressés, les Britanniques, sceptiques ou pas, Marie Billon.
En Angleterre, le déconfinement d'aujourd'hui n'est plus la nouvelle la plus importante. Linda et Alison font la queue devant le bureau de poste et c'est bien du vaccin qu'elles discutent.
Je suis ravie. C'est une vraie lueur d'espoir. Je sais que certaines personnes sont sceptiques parce que ça a été rapide, mais ils ont dédié tellement de gens à la recherche de ce vaccin. Alors moi, quand ce sera mon tour, je me ferai vacciner.
Je serai là aussi avec mon bras prêt. Les gens qui n'en veulent pas sont fous. On peut se demander si c'est dangereux ou non. Mais on est en danger aujourd'hui avec le virus. Je suis très pressée.
I can't wait.
Mais Tasha, elle, ne compte pas du tout se faire vacciner.
Approuver un nouveau vaccin aussi vite, c'est totalement irresponsable. Ça prend des années pour que les effets secondaires apparaissent. Je trouve ça dégoûtant.
Pour rassurer les Britanniques, gouvernements, scientifiques et autorités locales ont entamé plusieurs types de campagnes d'information et le ministre de la Santé a proposé de se faire vacciner en direct à la télévision.
Marie Billon, la correspondante d'RTL à Londres, en France, Jean Castex a indiqué ce matin que l'État avait précommandé de quoi vacciner 100 millions de personnes. La campagne, dit le Premier ministre, pourrait débuter à la fin décembre, au tout début du mois de janvier, pour les publics prioritaires, les résidents des EHPAD notamment.
Jean Castex qui a également évoqué la possibilité d'un dépistage massif dans trois région, peut-être avant Noël, expliquait-il ce matin.
Ce soir, selon les informations d'RTL, trois villes auraient été choisies, Saint-Étienne, Lille et Le Havre. Problème, Hervé Morin, le président de la région Normandie, où se trouve justement Le Havre, assure n'être au courant de rien.
J'ai pris l'habitude que, globalement, il y a les ploucs. Ce sont les élus locaux et ceux qui savent, c'est-à-dire les technos qui sont dans les administrations. Donc ça, j'ai fait mon deuil de l'idée qu'on puisse être associés. On avait tous en tête que cette histoire-là était en réflexion au sein du gouvernement, mais personne ne savait quelles étaient les régions dans lesquelles ça pourrait se faire, et surtout après, quelle est la méthode pour le faire. Parce qu'un dépistage généralisé, ça nécessite des moyens immobiliers, physiques, humains. C'est pas l'administration qui va trouver les associations qui seront en capacité de bâtir le modèle qui rendra cette campagne efficace et effective.
Hervé Morin, le président de la région Normandie, joint pour RTL par Benjamin Sportou. Les restaurateurs, eux, ont déposé aujourd'hui un nouveau recours devant le Conseil d'État pour réclamer leur réouverture. Réponse mardi, a priori. Mais les professionnels ont déjà tout prévu. Maître Olivier Chambord est l'avocat de l'UMI. C'est lui qui a plaidé tout à l'heure.
Nous sommes convaincus qu'il faut une réouverture dès mardi des restaurants traditionnels et des bars. En tout cas, rien ne le justifie sur le plan de la santé publique. Il faut mettre fin à cette rupture d'égalité avec les restaurants collectifs et routiers. Mais effectivement, il y a des protocoles très avancés, protocoles qui aujourd'hui ont un retour d'expérience sur la restauration collective et les restaurants routiers, qui permettraient aujourd'hui de se dire que les protocoles sont en place, pourraient permettre une réouverture et éventuellement les compléter. Discussion toujours entre le gouvernement et les représentants des restaurants. Et les cafetiers.
Maître Chambord, l'avocat de l'UMI, qui représente à la fois les restaurateurs et les professionnels de l'hôtellerie. Des professionnels pour qui Bruno Le Maire réclame un gel des primes d'assurance. Bonsoir Christophe Ponzio.
Bonsoir.
Le ministre de l'économie a carrément lancé un ultimatum aux assureurs.
Oui, les assureurs ont jusqu'à lundi prochain 5 jours pour s'engager fermement sur ce gel des primes pour les cafés, les restaurants et les hôtels. C'est un geste minimal, précise le locataire de Bercy. Sinon quoi ? Sinon, une taxe, 1,2 milliard d'euros ponctionnée au titre de la solidarité qui serait récupérée sur leur contrat d'assurance dommage. C'est très brutal, reconnaît le ministre, mais le Sénat vient d'adopter un amendement qui prévoit ce prélèvement. Bruno Le Maire se dit donc prêt à demander à l'Assemblée nationale d'arrondir les angles, mais uniquement en cas de geste significatif, pression maximum. Parmi les autres propositions sur la table, les assureurs pourraient aussi renoncer aux hausses de leurs primes sur les contrats de santé et prévoyance des entreprises, élargir le gel des cotisations aux autres secteurs touchés par la crise. Une ristourne aussi sur les assurances auto n'est pas non plus à exclure, car l'État n'a pas à être le seul à faire des efforts. Martel Bercy qui juge les près de 4 milliards d'euros engagés par les assureurs encore bien insuffisants.
Christophe Ponzio du service Éco de RTL et donc dans quelques minutes, c'est le patron d'AXA, le numéro un français de l'assurance, qui sera l'invité d'RTL, Jacques de Peretti, qui répondra donc à cet ultimatum de Bruno Le Maire.
Et puis info de notre correspondant à Grenoble, Serge Pillot, les stations de ski déposeront demain matin un référé liberté devant le Conseil d'État. Elle réclame une réouverture immédiate des remontées mécaniques. Pour la petite histoire, sachez qu'elles ont pris le même avocat que la conférence des évêques qui a obtenu gain de cause concernant la jauge dans les églises et puis concernant la réforme des retraites. Ça ne sera pas avant la fin de la crise sanitaire. C'est ce qu'a laissé entendre tout à l'heure Emmanuel Macron lors d'un déjeuner avec des sénateurs.
Nous ne sommes que le 2 décembre et le PSG joue peut-être dès ce soir, le plus gros match de sa saison, en tout cas le plus important pour l'instant. On en parle juste après la pause. À tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h10, la suite du journal avec vous, Amandine Bégaud. Et on va donc du côté du procès de Nicolas Sarkozy. Parole aujourd'hui à l'un de ses deux accusés, co-accusés en l'occurrence Gilbert Azibert.
C'est lui qui aurait donné des informations secrètes à Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy. Anne Le Hénaff, devant la cour, l'ancien haut magistrat a eu du mal à se justifier.
À l'époque, il est magistrat à la Cour de cassation et il s'intéresse de très près à une procédure dont il n'est pourtant pas chargé, celle lancée par Nicolas Sarkozy sur la saisie de ses agendas dans l'enquête Bettencourt. Pourquoi cet intérêt, demande la présidente. C'est un problème juridique qui m'intéresse, assure le magistrat, qui se dit absolument passionné par la procédure pénale. Mais pourquoi dans les écoutes, Thierry Herzog dit à Nicolas Sarkozy que vous avez des informations privilégiées. Je dément avoir tenu ces propos. Je suppose que Thierry Herzog voulait rassurer son client. clients. Vous appelez un magistrat pour lui demander des informations, il vous dit « j'en saurai plus près de la date du délibéré ». Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus ? La date certaine du délibéré, tante Azibert, souvent essoufflée derrière son masque anti-Covid. Mais la date, on la connaissait, elle est publique, dit la présidente. Quant au poste de conseiller d'État à Monaco que Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog lui auraient promis en échange, en tout cas c'est ce qu'on leur reproche, finalement Gilbert Azibert y a renoncé et il assure qu'il n'a jamais demandé de coup de pouce à l'ancien président de la République.
Anne Le Hénaff au Palais de Justice de Paris pour RTL. Le foot et le PSG, on le disait, jouent gros ce soir, très gros même.
Vous le disiez déjà la semaine dernière qu'ils jouaient gros.
Ben ça continue.
Ah,
les
fou,
Parisiens
ça.
Affrontent Manchester United en Ligue des Champions. Bonsoir Philippe Sanfourche.
Mais il était déjà là lui aussi.
Ben oui aussi, en fait, l'histoire se répète. Pour résumer, Philippe, c'est soit la victoire, soit le cauchemar. Le problème, c'est que pour gagner, il faut des attaquants en forme et c'est loin d'être le cas au PSG.
Oui, les stars sont fébriles. Hein. Neymar déjà, alors qu'il parle à la presse en interne pour appeler à la révolte. Traduction, que les autres fassent plus d'efforts et lui permettent de briller. Et puis il y a Kylian Mbappé muet devant les buts depuis 1 an et 8 matchs en Ligue des Champions. Une éternité. L'entraîneur Thomas Tourelle convoque son attaquant ce soir.
C'est une bonne occasion pour finir cette période. C'est trop long pour nous. C'est aussi une autre raison pourquoi on a seulement 6 points. Je ne peux pas expliquer parce qu'il a la qualité, la personnalité et l'expérience pour être décisif.
Oui, mais Mbappé est usé physiquement et cogite en ce moment sur le présent et sur son avenir à Paris ou ailleurs. Old Trafford peut lui rafraîchir les idées. On se souvient, il avait marqué là-bas il y a 2 ans pour une victoire 2-0. 2-0, le score idéal qui combinait un match nul ou une défaite de Leipzig ce soir, eh bien suffirait même à qualifier le PSG avant la dernière journée.
Ah, avec des si. Manchester United, Philippe Sanfourche contre le PSG, c'est à suivre en direct ce soir, bien sûr, sur RTL, coup d'envoi à 21h. Et on rappelle quand même la victoire de Marseille hier contre l'Olympiakos. Ça n'arrive pas souvent en Ligue 1.
Il faut.
Merci beaucoup.
Ça faisait longtemps.
Et puis petite pensée ce soir pour celui qui pendant des années a commenté ici le rugby, Christophe Dominici. Première cérémonie d'obsèques aujourd'hui à Boulogne-Billancourt en présence de très nombreuses personnalités du rugby. Bernard Laporte, notamment le président de la Fédé. Une deuxième cérémonie prévue vendredi ailleurs dans le Var, chez lui. C'est là que Domi, comme on l'appelait, sera inhumé.
Merci et à tout à l'heure Amandine. Dans un instant, les assureurs sont accusés de ne pas aider assez les commerçants noyés sous la crise du Covid. Ce soir, c'est donc le patron d'AXA France qui répond, Jacques de Peretti, invité d'RTL Soir, tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
Les assureurs, pris pour cible par les politiques et par le gouvernement, accusés de ne pas jouer pleinement leur rôle pour aider commerçants et restaurateurs à ne pas sombrer face à la crise du Covid. Jacques de Peretti est le président directeur général d'AXA France. Il est donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Jacques de Peretti.
Bonsoir Thomas Soto.
Les assureurs sont regardés comme les grands méchants loups depuis le début de l'épidémie, ceux qui profiteraient du Covid pour encaisser plus et rembourser moins. Que répondez-vous à ces accusations chez AXA ?
Mais écoutez, tout d'abord, je voudrais vous dire que ces critiques contre l'action des assureurs sont complètement injustes et font très mal aux 200 000 salariés que nous comptons dans nos entreprises. Et je voudrais juste vous dire pourquoi, dans notre compagnie, avec nos 6000 agents généraux et conseillers sur le terrain, nous avons été, dès le premier jour, au contact de nos clients, ceux qui nous font confiance, pour leur porter assistance, pour leur expliquer les garanties. Et tout ça, bien de fois, ça a été important. Alors, vous allez me dire, oui, mais au-delà, qu'est-ce que vous avez fait financièrement ? Mais financièrement, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons bloqué, pour les 300 000 professionnels qui nous font confiance, toutes les augmentations de 2020, dès le début, que nous avions pu prévoir. Nous avons remboursé 2 mois de cotisation à tous ceux qui avaient connu une fermeture administrative. Et nous avons aussi créé, parce que c'était important, un fonds de solidarité interne à AXA qui était doté de 100 millions d'euros que nous avons mis entre les mains de nos agents généraux, ceux qui connaissent le mieux le terrain, pour aider ceux qui souffrent le plus.
Alors,
parce
Jacques
que
de
dans
Peretti,
cette crise,
c'est vrai
beaucoup
que
ont souffert.
Si on prend ce qu'ont fait tous les assureurs, c'est 400 millions pour le fonds de soutien aux PME, un programme d'investissement de 1 milliard au total, 3,8 milliards d'engagement. Des choses ont été faites, donc, mais ce n'est pas suffisant. C'est évidemment pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Écoutez-le.
J'attends d'eux, d'ici le début de la semaine prochaine, que sur le secteur de l'hôtellerie, des cafés et des restaurants, c'est le geste minimal que je leur demande, ils gèlent les primes d'assurance. Et je pense qu'ils peuvent faire encore un peu mieux, si possible.
Il demande, Bruno Le Maire, le gel des primes d'assurance, c'est-à-dire des cotisations pour le secteur de l'hôtellerie, des cafés et des restaurants. Vous lui répondez quoi ? C'est oui ou c'est non pour AXA ?
Alors, clairement, nous avons été toujours allants pour aider
le secteur qui souffre le plus, c'est-à-dire les commerçants, les fleuristes dont les stocks ont disparu, etc. Et nous allons continuer à le faire. Donc, s'il s'agit de geler les tarifs l'année prochaine, c'est quelque chose tout à fait envisageable. Mais ce qu'il faut...
C'est envisageable ou c'est acté pour vous? C'est oui ou c'est non?
Attendez,
un ultimatum, vous savez, Bruno Le Maire. Il dit « je veux savoir avant lundi ».
Oui, mais si vous me permettez de réserver ma décision à Bruno Le Maire, mais vous savez, dans l'état d'esprit dans lequel nous sommes, nous pouvons aller plus loin. Nos comptes, je voudrais juste quand même tordre le cou à une idée qui se propage aujourd'hui et qui est complètement fausse. C'est celle qui consiste à dire que les assureurs ont profité de la crise, c'est-à-dire qu'ils ont gagné de l'argent grâce à cette crise. C'est totalement faux. Certes, en effet, nous avons moins d'accidents auto, et sur cette branche, nous avons gagné probablement, un peu d'argent.
2,2 milliards économisés par tous les assureurs au printemps, selon l'UFC, que choisir avec les accidents auto.
Oui, mais parallèlement, sur toutes les autres branches, nous avons perdu beaucoup plus d'argent. C'est la prévoyance, par exemple, où nous avons eu beaucoup plus d'arrêts de travail, parce que, bien sûr, cette maladie a amené ceux qui étaient vulnérables à rester chez eux pour se protéger, et nous les avons accompagnés, mais aussi les pertes d'exploitation que avons indemnisées.
On va y venir, parce que là, on va se perdre. C'est des sujets qui sont forcément un peu techniques, un peu compliqués. Non. Revenons sur le gel des primes d'assurance. Les restaurateurs qui vous écoutent et qui sont au bord du gouffre n'ont pas le temps d'attendre. Vous dites oui ou vous dites non? Vous dites un report ou vous dites une annulation?
Attendez, les restaurateurs... Je le sais, ont besoin de nous. Nous serons à leur côté, c'est ce que je vous dis. Et je vais discuter de ce pas. Et nous discutons depuis quelques jours avec le ministre pour voir comment nous pouvons une nouvelle fois les aider. Mais je voudrais juste dire, juste préciser que globalement, quand vous faites les additions et les soustractions, le secteur de l'assurance a payé une lourde contribution à cette crise de l'ordre de 2 milliards d'euros, vous le savez. Ça veut dire que nos comptes d'exploitation sont touchés et ça veut dire qu'il y a, et comme l'a rappelé le gouverneur de la Banque de France, il nous a, l'autre jour, lors de sa conférence, il a dit que il fallait veiller à ce que les compagnies d'assurance aient des comptes équilibrés. Et cette année, ça va être très compliqué.
Vous ferez des bénéfices cette année ou pas? Est-ce que AXA ferait des bénéfices cette année?
Peut-être, probablement. Je l'espère.
Ouais.
Mais ce que nous devons avoir en tête, c'est que nous n'avons pas recours à l'impôt face à cette crise inédite. Nous n'avons pas recours aussi aux emprunts à taux négatif. Ce qui veut dire que notre seule ressource, ce sont les cotisations de nos assurés. Et ça, c'est très important.
Alors moi, j'ai une question très précise. Si vous dites oui au gel des cotisations, est-ce que vous allez baisser en face les remboursements ou pas? Ou est-ce que les remboursements resteront les mêmes?
Alors, pas du tout. Nos contrats resteront les mêmes. Nous avons des contrats, vous le savez, qui sont très riches. Faut que vous ayez en tête qu'aujourd'hui, sur le terrain, eh bien, nous apportons toujours des solutions, des très belles solutions. Aujourd'hui, il y a 200 à 250 commerçants, restaurateurs qui franchissent la porte d'une agence AXA tous les jours pour aller chercher une nouvelle garantie.
Pardon, monsieur de Peretti, mais les restaurateurs, ils sont aussi très nombreux à avoir reçu, à recevoir en ce moment des courriers qui leur demandent d'accepter un avenant à leur contrat qui exclut le risque épidémique pour l'an prochain ou qui parfois exclut les pertes d'exploitation pour cause de fermeture administrative, exactement ce à quoi ils sont confrontés aujourd'hui. Et s'ils n'acceptent pas, les contrats sont résiliés à la date anniversaire. C'est-à-dire qu'en gros, vous les sortez, vous, AXA ou d'autres compagnies d'assurance. Est-ce que ça s'appelle pas appuyer sur la tête d'un noyé, ça?
Alors, mais je vais être très clair avec vous, mais très clair. Aujourd'hui, ces garanties pertes d'exploitation sans dommage suite à une pandémie, quand elles sont dans les contrats, aujourd'hui, dans la mesure où nous ne sommes pas capables de faire face à cela, nous en avions dans quelques contrats, eh bien, nous avons l'autorité qui contrôle les assurances, qui nous demande de les sortir, de ne plus les garder. Et c'est pour ça que nous travaillons sur un régime et public-privé, qui va s'appeler le régime des catastrophes sanitaires, comme pour les catastrophes naturelles, pour être capable d'apporter une solution à ces situations.
Mais là, ils ne voient pas de solution. Ils voient qu'ils ont le droit de cotiser, et pour les remboursements, on leur dit « on vous rappellera ». C'est ça qu'ils voient, les restaurateurs, aujourd'hui. C'est ça tout ce qui... Moi, j'en ai appelé cet après-midi, c'est ce qu'ils nous disent, M. de Peretti. C'est ce qu'ils nous disent.
Mais soyons bien clairs.
On leur fait signer des avenants qui servent à ne plus les indemniser.
Soyons bien clairs, sur les pertes d'exploitation, nous avions des contrats qui offraient cette garantie. Nous les avons indemnisés. Et voilà.
C'est pas ce qu'ils disent. Il y a de nombreux recours devant la justice, avec d'ailleurs à chaque fois encore une fois, là, on est au-delà d'AXA. Hein, c'est pour toutes les compagnies d'assurance, mais il y en a beaucoup qui concernent AXA, avec des résultats qui sont pas toujours les mêmes devant la justice.
Bien sûr. Mais soyons bien clairs, nous, chaque fois que nous avions une garantie que nous estimions valable, eh bien sûr, nous avons exécuté cette garantie plus de 2000 fois. 2000 restaurateurs.
Oui, mais ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est on nous fait signer des avenants, et si on ne signe pas ces avenants qui ne couvriront plus ces cas-là l'année prochaine, on nous dit, eh ben vous sortez. Vous n'êtes plus chez nous, vous n'êtes plus nos clients, on ne vous assurera plus.
Parce que tous les contrats, c'est une recommandation, voire une directive de l'autorité des assurances, qui demande à tous les assureurs, quand le contrat n'est pas clair, d'apporter la clarté nécessaire en revoyant le wording. C'est ce que nous avons fait, mais nous avons, bien sûr, gardé toute la richesse de nos contrats, et notamment toutes les pertes d'exploitation liées à un meurtre, une rixe dans un restaurant, une intoxication alimentaire dans un restaurant, qui serait frappé de fermeture administrative, sera toujours garantie chez AXA. Simplement, face à une pandémie, le régulateur nous a demandé d'être clair et de ne plus donner cette garantie que nous sommes.
Donc, est-ce que là, vous dites, en solidarité avec les restaurateurs, est-ce que vous dites au gouvernement d'intervenir auprès du régulateur? Est-ce que vous voulez les assurer? Est-ce que vous voulez les couvrir contre les pandémies? Parce que c'est la pandémie, c'est la fermeture administrative qui fait qu'ils vont tirer le rideau et qu'ils vont faire faillite. Mais l'intoxication alimentaire.
Mais monsieur Soto, dans tous les pays, tous les assureurs ont dit qu'ils étaient incapables de couvrir une pandémie mondiale. Tout simplement parce que c'est inédit, ça coûte horriblement cher, vous savez.
Donc vous ne pouvez rien faire pour eux, en fait.
Repose sur la mutualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des vaillants pour venir aider les blessés. Quand tout le monde est blessé au même moment, comment voulez-vous que, avec la mutualité des cotisations, nous venons aider tous les blessés? C'est impossible. C'est comme les catastrophes naturelles. Nous avons inventé un régime spécial en France qui a maintenant 50 ans, qui a bien fonctionné, qui apporte ce confort et ce soutien dont ont besoin. J'ai été sur le terrain l'autre jour dans les Alpes-Maritimes. J'étais heureux de voir qu'on était capable d'aider tous ceux qui avaient vu leur maison disparaître, etc. Voilà, c'est ça.
Et pardon, j'ai une question très concrète.
Il faut l'organiser avec l'État.
L'année prochaine, si je veux me faire assurer contre les virus informatiques, c'est couvert ou c'est pas couvert, ça?
Bien sûr que c'est couvert.
C'est couvert, parce qu'il y a des compagnies d'assurance qui n'assurent plus les virus informatiques à cause du télétravail. Donc ça, vous, c'est couvert.
Nous assurons les virus informatiques, et même mieux, pendant le télétravail cette année, nous avons étendu nos garanties virus informatiques aux virus informatiques qui s'introduiraient via le télétravail. Donc là aussi, c'est des accompagnements que nous avons menés, et sans aucune surprime.
Et est-ce que les tarifs des assurances auto ou habitation vont augmenter l'an prochain?
Eh bien, écoutez, ça va dépendre pour chaque compagnie des coûts auxquels elle est exposée.
Chez AXA. Ouais.
Chez AXA, nous prenons notre décision au début de l'année. Mais c'est très clair, si vous regardez, chaque branche a une évolution des coûts qui est différente, d'accord? En ce qui concerne l'auto, oui, nous avons eu moins de sinistres, mais il faut aussi...
Donc ça va baisser sur l'auto, si on suit votre logique.
Oui, sauf que le prix des pièces a augmenté de 7%. Parce que c'est un fait. Chaque réparation a augmenté de 30 à 40 euros parce que nous avons un forfait décontamination, etc., etc. Cette crise crée des surcoûts. Ne croyons pas que tous les compteurs diminuent, au contraire.
Bruno Le Maire a dit les banquiers ont joué le jeu. On a l'impression que les assureurs ne jouent pas le jeu. Il y a un ex-collègue à vous, Xavier Bertrand, qui était assureur, qui s'en est pris à votre corporation, bien caché depuis le début de la crise, et qui estime que vous devriez participer à l'effort de guerre. Est-ce que vous vous dites pas parfois, quand même, alors oui, on a des contraintes, oui, on a le régulateur, mais on est un peu court là-dessus, on fait pas le job. On fait pas le job comme on devrait, on ne sauve pas les restaurateurs et les petits commerçants.
Écoutez, moi j'ai été sur le terrain, j'ai vu mes 6000 agents généraux et conseillers qui allaient voir leurs clients, j'ai rencontré des restaurateurs, j'ai vu leur détresse, mais j'ai aussi senti leur compréhension face aux gestes qu'on pouvait faire, à la mesure de ces gestes. Bien sûr que je n'ai pas pu, quand le contrat ne le permettait pas, payer tous les débours. Mais nous avons été présents. Donc voilà, il faudrait peut-être aussi si aujourd'hui nous avions d'énormes difficultés avec les restaurateurs, nous le serons aujourd'hui. Nous avons, je vous le dis,
il y en a
d'énormes
difficultés.
De nouveaux restaurateurs, de nouveaux commerces qui nous rejoignent, parce que eh bien nous sommes capables d'apporter de belles réponses avec des belles propositions et avec des conseils de proximité grâce à la couverture.
Alors, je vous pose la question une dernière fois, puis on arrive au bout, puisque vous apportez de belles réponses. le gel des primes d'assurance que vous demande Bruno Le Maire, qui l'a demandé à nombreuses reprises. Il vous a vu, revu, recontacté, vous n'avez pas encore répondu. Est-ce que vous pourriez, pour ceux qui nous écoutent, nous dire c'est oui ou c'est non ?
Écoutez, laissez-moi lui réserver la réponse, mais je n'aurais peut-être pas accepté de prendre cette émission si j'étais bloqué. Nous sommes toujours ouverts au dialogue.
Donc la réponse est plutôt oui. Plutôt oui.
Pour trouver des solutions.
Plutôt oui. Jacques de Peretti ?
Je réserve ma réponse au ministre.
Bon. Eh bien, il écoute en tout cas. Merci beaucoup, Jacques de Peretti, d'avoir été en direct dans RTL Soir. À suivre, avec Valérie, c'est comme avec Carrefour. Jeu positif, l'œil de Valérie Trier-Véder qui a décidé de nous aider à voir la vie du bon côté parce que tout n'est pas noir. Il y a beaucoup de gris.
RTL Soir.
RTL. 18h32.
RTL Soir avec Thomas Sotto.
Et avec Amandine Bégaud, pardon, pour le rappel des titres.
Et elle a eu la réponse des assureurs à l'ultimatum de Bruno Le Maire. Ce soir sur RTL, Jacques de Peretti, le président d'AXA France, se dit prêt à geler les primes d'assurance des restaurateurs, comme le demandait le ministre. C'est envisageable, explique-t-il. Et sur le front sanitaire, une campagne de dépistage massif sera bientôt organisée dans 3 villes, Le Havre, Lille et Saint-Etienne. Il n'y a pas plus de détails pour l'instant sur les modalités, mais sur le calendrier. Le Royaume-Uni, lui, commencera la campagne de vaccination dès la semaine prochaine. Londres a donné son feu vert au vaccin Pfizer. Et puis le PSG joue ce soir son avenir en Ligue des Champions. Les Parisiens affrontent Manchester United. Coup d'envoi à 21h et ce sera bien sûr à suivre en direct sur RTL.
La météo pour demain, Peggy. Bon, bah demain,
Ça ouais. Vous plaît pas, hein ?
Non, bah non.
Bah oui,
non,
je sais, il y a beaucoup de pluie, beaucoup de vent. On a une nouvelle perturbation. Ça va commencer par le nord-ouest avant de glisser sur l'ensemble du pays. Alors les pluies et le vent vont se renforcer dans l'après-midi. Entre 80 et 90 km/h sur les côtes, 60 à l'intérieur des terres, seules les régions du sud, l'extrême sud et les frontières de l'Est seront à l'écart de cette perturbation dans la journée. Le soleil même résistera en région PACA et en Corse. A signaler quelques flocons sur le massif central, tout ça sous des températures quasi stationnaires pour les maximales de 3 à 14 degrés à Nice.
Merci beaucoup Peggy. L'œil de Valérie Trier-Véler, comme chaque mercredi dans RTL Soir. Bonsoir ma chère Valérie.
Et bonsoir Thomas.
Ce soir, vous avez un mot d'ordre, c'est restons positifs.
Oui, parce qu'on en a vraiment assez de cette année 2020.
Oui.
Et puis on peut même le dire, Thomas, c'était une année de merde.
Oui, madame, c'est un très bon résumé.
On peut le dire comme ça. On a été confinés 2 mois au printemps, 1 mois et demi cet automne. On a dû renoncer à bien des choses qu'on aime faire. On a dû renoncer à voir ceux qu'on aime voir. Alors on va chercher du positif maintenant, parce que le compte à rebours a commencé. On sait que beaucoup de gens ont souffert de cette année. Beaucoup ont perdu leur emploi en 2020. Beaucoup sont passés sous le seuil de pauvreté. Donc on va passer à autre chose.
Et on va penser à ceux qui sont en difficulté et mettre le cap sur 2021. Allons-y.
Oui, parce que le compte à rebours a commencé. Nous sommes donc en décembre. L'année 21 s'annonce désormais à grands pas. Ouf, enfin, il était temps. Donc, avec en perspective la fin du confinement et surtout l'arrivée du vaccin dès le mois de janvier pour les personnes prioritaires. Uh-huh. Le vaccin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir échapper à la maladie, mais qu'on va voir repartir l'économie. De quoi retrouver une vie normale. Plutôt que de continuer à voir ce que nous ne pouvons pas faire, bah, on va voir maintenant ce qu'on peut faire, ce qui est permis de faire. On va pouvoir circuler normalement. On va pouvoir voyager pour ceux qui le peuvent. On va même pouvoir prendre des billets SNCF et les changer gratuitement. C'est fou, non ? Hein ? Bref, ça s'appelle faire des projets et ça, c'est essentiel pour tout être humain.
Mais pour ceux qui en rêvaient, on ne pourra pas aller faire du ski pendant les vacances de Noël.
Ah ben non, il ne faut pas trop en demander quand même, Thomas. Hein. Alors, au risque, ou alors allez-y, mais au risque d'être isolé 7 jours pour ceux qui sont en Suisse et puis d'être contrôlé par la douane à la frontière. Mais faites-le si vous voulez. Hein.
Bon, c'était
à défaut des bars et des restaurants qui vont rester malheureusement fermés pour le moment, on peut se concentrer sur les théâtres, les cinémas qui, eux, vont rouvrir.
Le 15 décembre.
Bon, nous serons en période de couvre-feu. Hein, mais comme quand on avait 15 ou 16 ans qu'on demandait la permission de sortir, oui mon chéri, si tu vas au cinéma c'est possible.
Mais tu rentres pas trop tard.
Donc voilà, on rentrera pas trop tard. Et puis dans la mesure de nos moyens, donc allons voir les pièces qui reprennent, les films qui ressortent, ici et là. Comme nous encourage le chanteur Amir qui vient de lancer l'opération La Culture Souffre, alors offrons de la culture.
Alors ça c'est une bonne idée, alors offrons de la culture pour Noël,
voilà,
c'est la liste
exactement,
au Papa Noël.
On peut offrir des places de musée, des entrées de musée, des places de théâtre, d'opéra, des places de concert. Voilà, valable pour un an, quand ça reprendra. Bon, mais c'est pas tout dans les bonnes nouvelles. Il y a quand même l'article 24 qui va être réécrit. Ça vous fait rire. Alors cet article de la loi de sécurité globale qui interdisait de diffuser des images de policiers, enfin, bon, s'il y avait suspicion
c'était
de haine derrière,
voilà.
et qui empêcherait la presse de faire son travail. Vous savez, Thomas, ce que ça veut dire en politique, un article réécrit
Ça veut dire déchiré, non ?
Oublié. Ça veut dire un article retiré, sans le dire, une façon de digérer le chapeau sans avoir eu à le manger. Alors Emmanuel Macron, qui avait toujours dit qu'il ne se laisserait pas dicter ses décisions par la rue, Ben là, il change. Il n'est plus dans le comportement frontal, il est dans le contournement. Alors peut-être est-ce le début d'une inflexion, à moins que ce soit un tour de passe-passe. Mais enfin, no comment. Bon, deuxième bonne nouvelle, il y a aussi l'OCDE qui nous annonce un futur meilleur avec l'esquisse d'une reprise de l'économie. Une reprise, soit plus faible en Europe. Mais là encore, no comment, on ne veut que des bonnes nouvelles. Décembre, c'est le mois de Noël. Alors on ne va pas bouder notre plaisir. Ne laissons pas la magie de côté. Acceptons la trêve. On peut acheter des jouets ailleurs que sur Amazon. On peut faire travailler nos petits commerçants et pas seulement les grandes surfaces. Et puis regardons ces élans de solidarité un peu partout, comme ces élans de créativité. Mais la meilleure nouvelle, Thomas, vous savez quoi ?
Non.
On va même pouvoir acheter des boules pour le sapin.
Oh. Hein ?
Elle n'est pas belle, la vie ?
Oh, bah si, elle est belle, la vie.
Et puis la dernière bonne nouvelle, demain, c'est Philippe Caprivière.
Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il n'y en a pas une petite musique de Laurie, elle ? Non ? C'était quoi sa chanson ? C'était la positive attitude, hein, c'est ça, vous vous souvenez ?
Oui, mais c'est pas ma génération, mais je connais quand même.
Hein. Jean-Pierre Raffarin l'a cité d'ailleurs
oui,
dans ce discours.
Voilà.
Bon, on l'écoutera plus tard.
On aime les bonnes nouvelles, hein.
Absolument.
Ça fait du bien de temps en temps.
Merci, joyeux Noël,
merci.
On a encore un petit peu de temps.
On a un petit peu de temps.
Merci beaucoup, dans un instant, il est sorti, ça aussi c'est une bonne nouvelle, il est sorti vivant des flammes de l'enfer, celles qui ont embrasé sa Formule 1 le week-end dernier lors du Grand Prix de Bahreïn. Romain Grosjean s'est confié à Frédéric Veil, il est l'invité d'RTL Soir tout de suite.
RTL Soir. Thomas Soto, RTL Soir.
28 secondes en enfer, on le croyait perdu, mais il est sorti du brasier grâce à son sang-froid et il va incroyablement bien aujourd'hui. Le pilote franco-suisse de Formule 1, Romain Grosjean, est l'invité d'RTL Soir. Il a accepté de répondre tout à l'heure aux questions de notre spécialiste de la F1, Frédéric Veil.
Bonsoir Romain Grosjean.
Bonsoir.
Et merci tout d'abord de nous accorder un petit peu de votre temps pour RTL. Avant toute chose, vous êtes sorti ce matin de l'hôpital militaire de Bahreïn après trois nuits d'hospitalisation. Comment allez-vous ?
Bien, heureux d'être sorti de l'hôpital. Je pense que c'est une étape importante dans la récupération. L'hôpital était extraordinaire et j'ai été traité comme un roi avec des super services. Mais c'est vrai que psychologiquement, pouvoir sortir, être à l'air libre, revoir d'autres gens et plus être dans un lit d'hôpital, c'est un grand pas en avant.
Bon, il y a trois jours, lors du départ du Grand Prix de Bahreïn, vous avez percuté un rail de sécurité à plus de 200 km/h. Votre voiture s'est immédiatement embrasée. Quelle image, quel souvenir vous avez au moment où le pilote russe Daniil Kvyat vous percute et que vous prenez la direction du rail ?
Alors, entre le moment où la voiture part en travers et le rail, il y a tellement peu de temps que je me souviens de freiner. L'impact n'a pas été violent en tant que tel. Ensuite, je me souviens rouvrir les yeux, détacher mes ceintures, vouloir sortir de la voiture, être bloqué, en me disant « bon, je dois être sur le toit, j'arrive pas à sortir, je vais attendre qu'on vienne m'aider », me rasseoir dans la voiture, regarder du côté gauche, voir une lumière orange, comprendre que c'est du feu qui est en train de brûler les stickers, les tire-offs qui sont sur ma visière, me dire qu'il faut que je sorte, qu'il y a le feu, j'ai pas le temps d'attendre, essayer à droite, réessayer à gauche, pas y arriver, me rasseoir, penser à Niki Lauda en me disant c'est pas possible, je peux pas terminer comme ça, ça peut pas se passer comme ça, réessayer, ne pas y arriver, me rasseoir, me dire que je vais mourir, que ça y est, c'est terminé, penser à mes enfants et trouver la solution.
Vous avez passé 28 secondes dans l'enfer des flammes. Vous avez eu l'impression que c'était une éternité ou que c'est passé super vite?
J'ai l'impression que c'était plus long 28 secondes, mais c'était pas long puisque j'étais actif, j'ai essayé différentes choses, j'ai essayé de trouver des solutions. Il a fallu que je décoince mon pied de derrière la pédale de frein. C'est pour ça que ma chaussure, d'ailleurs, restait dans la voiture et que je suis sorti avec une seule chaussure et la chaussette à l'autre pied. J'ai essayé de comprendre comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour y arriver. Vous m'auriez dit ça a duré 1 minute 30, je vous aurais dit OK. 28 secondes, ça me paraît... C'est court. C'est court parce que j'ai pensé à tellement de choses, mais je pense que c'est des millisecondes à ce moment-là. Le cerveau, il est en mode survie, trouver une solution, rester vivant. Pour les miens, pour mes enfants, parce qu'ils peuvent pas perdre leur papa maintenant, là, comme ça, à Bahreïn.
C'est là que vous avez puisé cette force de vous extraire de la voiture en pensant à vos proches, à vos enfants.
Oui, la dernière tentative au moment où je pensais que j'allais mourir, c'est mes trois enfants et me dire que c'est pas possible, il faut que je trouve la solution pour eux.
Au moment où les médecins viennent vous secourir, on le sait, hein, vous ne cessez de les remercier depuis 2-3 jours. Dans quel état vous êtes-vous? Vous rendez vraiment compte de ce qui vient de se passer?
Oui. Alors au moment où je passe le bus autour du halo et du rail, je sais que je vais survivre. Donc je monte sur le rail, là je sens la main de Ian Roberts, le docteur, qui me tire vers l'avant. Donc je suis sauvé, je suis avec quelqu'un. Ensuite, tout de suite, je lui ai dit, j'ai le pied gauche cassé, j'ai les deux mains brûlées, j'ai enlevé mes gants. Si j'avais les mains brûlées, je voulais pas que les gants, la peau colle aux gants. J'ai tout de suite enlevé mes gants et j'étais très lucide. Ensuite, quand l'ambulance est arrivée, ils voulaient m'emmener en civière. J'ai dit non, je voulais marcher jusqu'à l'ambulance. Je voulais montrer, je voulais que la vue d'hélicoptère soit là, me voit marcher pour mes proches, pour expliquer aux gens que voilà, ça allait. J'étais pas en grande forme, ça allait. Ensuite, j'arrive au centre médical. Jean-Todd est venu me voir, il était adorable, il a pu appeler ma femme, j'ai pu parler à Marion dans le centre médical, et ça c'était un moment pour Marion, pour mes enfants, pour moi, magique.
Vous avez, j'imagine, revu les images de votre crash, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui avec le recul? Vous avez vraiment le sentiment d'être un miraculé?
Je ne sais pas si miraculé c'est le terme, c'est le travail, c'est l'évolution de la sécurité, c'est Jules Bianchi qui me sauve la vie avec l'introduction du halo suite à son accident, c'est l'entraînement physique pour être prêt en cas d'impact. Le plus dur pour moi c'est d'accepter ce que les gens de l'extérieur ont vécu, les gens qui m'aiment, mes proches et mes enfants.
Vous parliez de Jules Bianchi, justement, lundi matin sur l'antenne d'RTL. Philippe Bianchi, le papa de Jules, bon, on le sait, décédé des suites de son accident au Grand Prix du Japon, nous disait que l'accident de Jules a conduit les instances du sport automobile à rendre obligatoire le halo, cet arceau de protection qui est au-dessus de la tête des pilotes de Formule 1, ce qui vous a certainement sauvé la vie. Il nous disait aussi, au moins, l'accident de Jules aura servi à ça. C'est quoi votre réflexion par rapport à cette déclaration très forte de Philippe Bianchi?
Avec Philippe, on est très proche depuis l'accident de Jules et on s'est bien évidemment envoyé des messages depuis l'accident et je lui ai dit Jules m'a sauvé. Jules m'a sauvé et je lui serai éternellement reconnaissant. Il n'est plus là malheureusement et il nous manquera toujours. Et là, Jules Bianchi, sans le halo, et pourtant j'étais un des pilotes qui était contre le halo depuis le début. Mais aujourd'hui, je me vois pas en aucun cas rouler sans un halo, et c'est la meilleure invention des dernières années, et c'est grâce à Jules.
Et votre accident, Romain, a aussi mis en lumière les énormes progrès qui ont été faits ces dernières années en matière de sécurité sur les voitures, sur les circuits. Et pour vous, les pilotes, c'est aussi, j'imagine, votre sentiment aujourd'hui?
C'est mon sentiment aujourd'hui, et aussi le sentiment qu'on peut apprendre de cet accident. Les voitures ne sont pas censées prendre feu aujourd'hui, et là, on avait un énorme feu, on avait 110 kilos d'essence qui était en train de brûler. Pourquoi le rail s'est ouvert? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux sur les circuits? Comment est-ce qu'on peut améliorer la norme des gants des pilotes? Parce que j'ai aucune brûlure sur le corps, même sur mon pied qui n'avait plus de chaussures, il y avait juste une chaussette. En revanche, ma main gauche a été passablement endommagée. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça pour encore faire un pas en avant.
Bon, l'avenir de Romain Grosjean, votre avenir maintenant, c'est vous qui l'avez dit, hein, c'est votre envie de revenir dans 10 jours au Grand Prix d'Abu Dhabi. Après, c'est de passer, j'imagine, plein de bon temps auprès de vos enfants.
Effectivement, oui, c'est dur de ne pas les voir. Avec le protocole Covid, je ne peux pas rentrer à la maison si je veux essayer de faire Abu Dhabi, et c'est très égoïste, mais c'est ce que j'ai dit à Marion, et j'ai dit, je comprends que vous n'acceptiez pas, mais je me dois d'essayer d'aller à Abu Dhabi, je me dois de remonter dans la voiture, j'en ai besoin. C'est pas une option. Évidemment, si ma main ne me le permet pas, je ne l'essaierai pas. Mais aujourd'hui, c'est clairement l'objectif et je fais tout en termes de guérison pour y arriver.
Vous avez 3 jeunes enfants. Quand vous allez les revoir, il va falloir choisir les mots pour leur expliquer ce qui s'est passé.
On en a déjà beaucoup parlé. Ça a été une des choses les plus importantes pour moi. Dès le dimanche soir, on a fait des vidéos. Je leur ai expliqué, on en a parlé, ils m'ont posé toutes les questions qu'ils voulaient me poser. Ils sont persuadés que j'ai un bouclier d'amour, que j'ai été protégé, que je suis un super-héros, que rien ne peut m'arriver. Mais on continuera d'en parler parce que c'est important. Je leur expliquerai aussi au moment où je suis prêt cette rencontre avec la mort, et quand même quelque chose que je ne souhaite à personne, parce que c'est vraiment un des pires sentiments au monde.
Après ce qui vous est arrivé dimanche dernier, vous verrez la vie autrement désormais?
Oui, il y a un avant et un après. Certaines personnes m'ont envoyé un message en me disant c'est ta deuxième date de naissance, et je pense qu'ils n'ont pas tort. La vie va être très différente et je vois, enfin voilà, l'avenir et tout, aujourd'hui c'est plus du tout la même chanson.
Vous allez beaucoup mieux, hein, quand on le disait, vous êtes sorti de l'hôpital ce matin, vous avez presque pleuré, c'est ce que vous avez écrit sur les réseaux sociaux en voyant que vous pouviez utiliser votre doigt. Il y aura aussi une reconstruction psychologique qui va être compliquée.
Oui, il y a un travail psychologique que j'ai déjà entamé. On travaille dessus. Et encore une fois, j'essaierai d'aller à Abu Dhabi si je suis pris par la panique, par la peur, par l'angoisse. Je monterai pas dans la voiture et je m'arrêterai là. Mais j'ai besoin d'aller jusque-là, de travailler, d'être prêt à savoir ce qui va se passer.
Merci. Merci mille fois, Romain Grosjean, d'être intervenu ce soir sur RTL. Et forcément, on vous souhaite le meilleur pour les jours à venir qui vont être, comme vous l'avez dit, votre deuxième vie après votre deuxième date de naissance. Merci, Romain Grosjean.
Merci.
Merci Romain Grosjean et merci à Frédéric Veil pour cette interview. Dans un instant, la culture de l'actu. Alors, l'article 24 va être réécrit. Du coup, Julia Molko a décidé d'écrire et de réécrire la culture de l'actu ce soir.
RTL Soir. Thomas Soto, RTL Soir.
Et c'est Julia Molko que l'on retrouve à présent pour la culture de l'actu. Bonsoir Julia.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Tout le monde a ce mot à la bouche en ce moment avec la réécriture de l'article 24, hein, les vidéos de policiers, etc. Réécriture, c'est donc le mot que vous avez choisi ce soir.
Alors commençons par la réécriture en littérature.
Tout livre pousse sur d'autres livres.
Disait Julien Gracq. Et si en littérature, il n'y a pas de renouvellement fondamental des sujets, c'est parce qu'il n'y a pas de renouvellement fondamental de la nature humaine. Les écrivains continuent d'écrire sur les grandes préoccupations des hommes. L'amour, la mort, le pouvoir et l'argent. Et bien avant que les auteurs du XXe siècle comme Giraudoux, Gide ou Sartre ne reprennent les grands mythes antiques, et bien La Fontaine puisait nombre de ses fables dans celles d'Ésope, auteur du VIIe siècle avant Jésus-Christ, par exemple. Ésope écrit « Le loup et la grue ».
Un loup s'étant enfoncé par hasard un os dans la gorge promit une récompense à la grue si elle voulait avec son bec retirer cet os.
Et au XVIIe siècle, La Fontaine compose « Le loup et la cigogne ».
Les loups mangent gloutonnement. Un loup donc étant de frairie, se pressa, dit-on tellement, qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gosier. De bonheur pour ce loup, qui ne pouvait crier, près de là passe une cigogne.
Véritable reprise, ni le loup et la grue, ni le loup et la cigogne.
Eh bien voilà, c'est une véritable reprise d'Ésope. La Fontaine est restée fidèle à l'idée du duo oiseau-loup. Dans les deux textes, le loup est un sale type, l'oiseau un animal naïf et mal récompensé de sa gentille action, sauver le loup de l'étouffement. Mais La Fontaine écrit en vers, là où Ésope avait écrit en prose, et cela donne à la fable un rythme et une musicalité différentes. Bref, réécriture certes, mais n'enlevons pas à La Fontaine son travail d'enrichissement. Allez, passons au cinéma maintenant.
Only see a moindre père en fils. Only see a
clochard, hein, c'est ça, c'est les Siamois, chanson des Siamois.
Exactement, cette chanson des Siamois que vous ne retrouverez pas dans la version de 2020. Sortie en 55, cette chanson faisait débat, et pour cause. Les deux Siamois caricaturaient grossièrement des personnes asiatiques. Considérée comme l'une des chansons les plus racistes du catalogue Disney, elle n'a donc pas intégré la réécriture du dessin animé version film.
Ça alors ?
Tout comme Jock, l'aristocanin écossais, est devenu une femelle un peu diva sur les bords pour rééquilibrer la parité, tu parles.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir
Borisian.
Mais oui, Borisian et son déserteur. Nous sommes en 54 et Vian ne veut pas de cette guerre d'Indochine. En 83, Renaud réécrit le titre à sa façon avec ses mots pour dénoncer cette fois-ci le service militaire.
Président, je vous fais une bafouille que vous lirez sûrement si vous avez des couilles. Je viens de recevoir un coup de fil de mes vieux pour me prévenir que les gendarmes s'étaient pointés chez eux.
Alors là, elle est formidable, mais on avait changé de registre lexical avec Renaud, c'est certain. Parfois, la réécriture, c'est simplement une réinterprétation. On ne change pas les paroles, mais juste en réinterprétant de façon totalement différente, eh bien, on change le sens d'une chanson. Ici, Claude François en pleine vague yéyé. Maintenant, Barbara, 2 ans plus tard, dans le répertoire dramatique qu'on lui connaît.
Un jour comme un autre, je t'ai attendu jusqu'au petit matin. Tu n'es pas venu, mais moi on passe et malgré moi j'attends. Je t'attends encore et pourtant même si...
Bon enfin, la réécriture c'est aussi le pastiche, l'imitation, la parodie. Par exemple, Gilbert Bécaud qui chante gentiment la rose.
L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important.
Et là, je sens que vous allez sortir Thierry Le Lioron.
Eh bien oui, parce que lui aussi chantait la rose, mais à sa façon réécrite.
L'emmerdant, c'est la rose, l'emmerdant, c'est quoi ? C'est la rose, l'emmerdant.
Drucker, à l'époque, c'est devenu d'énormes problèmes. C'était après l'élection de François Mitterrand.
Exactement.
Et on l'avait plus beaucoup vu pendant un temps, Thierry Le Lioron, après ça.
Il y a un petit trou.
J'ai pas répété.
Voilà, la réécriture dans la culture.
Et demain, il y a Gérald Darmanin qui viendra réécrire l'article 24, le vrai, puisqu'il sera l'invité d'Alba Ventura à partir de cette.